Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Bonsoir et bienvenue à l'édition du vendredi 26 juin 2015. À la une ce soir.
Crise burundaise, l'ONU appelle au report des élections prévues à partir de lundi.
Nous reviendrons aussi sur l'intervention contre les étudiants qui campaient devant l'ambassade des États-Unis à Bujumbura.
En Somalie, au moins 70 soldats de l'Union africaine ont été tués dans une attaque d'Al-Shabaab.
En Tunisie, au moins 37 personnes sont mortes aujourd'hui dans une attaque contre un hôtel.
Attentat en France, une personne a été décapitée ce matin dans une usine de gaz industriel près de Lyon.
Et ici aux États-Unis, la Cour suprême américaine légalise le mariage homosexuel. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé aujourd'hui les autorités burundaises à reporter les élections prévues à partir de lundi en raison du climat politique et sécuritaire qui règne dans le pays. L'appel du secrétaire général de l'ONU intervient quelques heures seulement après que l'ensemble de l'opposition burundaise a annoncé le boycott du scrutin. Salwa Jafari nous en dit plus.
L'ONU se joint aux voix dissidentes. Ban Ki-moon demande au gouvernement burundais de mettre en veille les élections et de prendre sérieusement en considération la proposition de l'équipe internationale pour faciliter un éventuel report, car la paix dans le pays en dépend. Le Burundi est secoué par une grave crise politique depuis l'annonce fin avril de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Le secrétaire général a appelé tous les leaders politiques burundais à résoudre la crise actuelle par le dialogue dans l'intérêt du peuple, au moment où l'opposition a décidé unanimement de boycotter les élections. Ban Ki-moon a d'ailleurs demandé à la société civile de suivre le même exemple. Les opposants de Nkurunziza jugent que sa volonté de briguer un nouveau mandat est anticonstitutionnelle et contraire à l'accord d'Arusha qui avait ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise.
Et en Ouganda voisin, la présidentielle de 2016 fait aussi des remous. Le principal adversaire du président Yoweri Museveni lance une action en justice pour l'empêcher de se représenter. Amama Mbabazi, ancien Premier ministre, accuse le chef de l'État d'être trop âgé. La législation du pays fixe à 75 ans l'âge limite du président. Yoweri Museveni affirme n'avoir que 70 ans, mais son adversaire pense qu'il ment.
Blocage du dialogue politique en Guinée. L'opposition se retire. Le ministre de la Justice, président du cadre du dialogue, annonce la reprise pour la semaine prochaine. Nous apprend de Conakry notre correspondant Zakaria Camara.
En Somalie, au moins 70 soldats de l'Union africaine ont été tués dans une attaque menée aujourd'hui par des islamistes d'Al-Shabaab contre une base militaire de l'Union africaine dans la ville de Lego, dans le sud du pays. L'information a été confirmée par les autorités somaliennes dans une déclaration à la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide nous en dit plus.
L'assaut a débuté avec une attaque à suicide à la voiture piégée sur l'entrée de la base militaire, d'après des témoins, avant que des combattants d'Al-Shabaab, armés de mitraillettes et de lance-grenades, n'ouvrent le feu sur les troupes burundaises qui tenaient le complexe. La violente attaque aura duré plusieurs heures. Un porte-parole d'Al-Shabaab a déclaré que le groupe somalien a tué plus de 50 soldats de l'UA et s'est emparé de la base et de la ville de Ligo. 20 autres soldats burundais, de même que 40 civils somaliens, sont portés disparus et il y a des craintes qu'ils aient été enlevés. Le gouverneur de la région de Bachabel a confirmé que les forces de l'UA ont subi des pertes importantes, ajoutant que des dizaines de combattants d'Al-Shabaab ont également été tués. Avec les troupes ougandaises, les soldats burundais forment la force de 22 000 hommes de l'AMISOM.
Carnage en Tunisie, au moins 37 personnes sont mortes aujourd'hui dans une attaque contre un hôtel de Sousse. De nombreuses victimes sont des touristes étrangers qui étaient en vacances dans cette station balnéaire au sud de Tunis. Nicolas Tino.
Oui, cette attaque est d'ores et déjà le pire attentat de l'histoire récente de la Tunisie. Un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel. Il est entré par la plage, habillé comme quelqu'un qui allait se baigner. Et il avait un parasol avec dedans son arme. Puis arrivé à la plage, il a utilisé son arme, a indiqué le secrétaire d'État aux affaires sécuritaires Rafik Chellis sur la radio tunisienne Mosaïque FM. L'auteur présumé de cet attentat sanglant serait un étudiant originaire de la région de Kairouan, inconnu de la police. C'est une attaque terroriste contre un hôtel. L'auteur de l'opération a été abattu. Mais il pourrait y en avoir plus, selon Mohamed Ali Haroui, ministre tunisien de l'Intérieur. L'attentat de ce vendredi compromet fortement l'espoir pour la Tunisie de renouer cet été avec le tourisme en provenance d'Europe. Un poumon pour l'économie, 3 mois seulement après l'attaque contre le musée du Bardo qui avait tué 21 touristes. Cet attentat intervient à quelques jours du lancement de la saison estivale, dans un pays où le tourisme représente environ 7% du PIB et quelques 400 000 emplois directs et indirects. Sur les lieux de l'attaque de Sousse, le président tunisien Beji Caïd Essebsi a déclaré à l'AFP que la Tunisie ne peut faire face seule à la menace djihadiste et demande la mise en œuvre d'une stratégie globale contre le terrorisme.
Au Nigeria, 9 personnes ont été condamnées à mort à Kano pour blasphème en application de la charia en vigueur dans le nord du pays. D'après les autorités, le prêcheur soufi Aminu Abdul Nias et 8 de ses adeptes ont écopé de la peine capitale pour avoir critiqué le prophète Mahomet. Ses commentaires prononcés le mois dernier au cours d'une cérémonie religieuse avaient engendré des violences dans la ville. Sa maison avait même été brûlée selon la police et c'est à ce moment-là que les prévenus ont été arrêtés.
En bref, l'AFP indique que la justice angolaise a placé en détention 15 jeunes accusés de vouloir renverser le président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis plus de 35 ans.
Et plusieurs centaines de réfugiés érythréens manifestaient aujourd'hui devant le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Ils exigent plus de fermeté à l'égard du régime d'Asmara face aux violations des droits de l'homme dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attentat terroriste en France. Une personne a été décapitée ce matin dans une usine de gaz industriel près de Lyon, dans le centre de la France. Un suspect a été appréhendé. Claire Morin-Gibourg.
Une mise en scène macabre. La tête de la victime a été mise sur un grillage avant que l'auteur présumé de l'attentat, Yassine Sali, provoque une explosion en percutant des bouteilles de gaz à bord d'une camionnette. Une équipe de pompiers appelée en secours a été accueillie au cri d'Allahu Akbar, mais Yassine Sali a été rapidement maîtrisé. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour un sommet consacré notamment à la Grèce ont rapidement condamné cet attentat. L'attaque est de nature terroriste, a souligné le président François Hollande. Les démocrates feront toujours front contre la barbarie, a écrit de son côté le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, sur son compte Twitter. Nous devons combattre cette perversion idéologique par tous les moyens, a affirmé le premier ministre britannique David Cameron. La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, déclaré que ces attaques mettaient en évidence les défis auxquels les Européens devaient faire face.
Au moins 13 personnes sont mortes et 25 hospitalisées aujourd'hui dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique contre une mosquée chiite au Koweït pendant la grande prière du vendredi. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours selon le groupe Province de Najd, qui s'est récemment manifesté comme la branche saoudienne du groupe djihadiste. La mosquée répandait l'enseignement chiite parmi la population sunnite. C'est la même organisation qui avait revendiqué en mai 2 attentats meurtriers contre les chiites en Arabie saoudite.
Et puis au Yémen, 2 hommes à moto ont tué à bout portant un commandant local de la milice chiite Houthi à Sanaa, la capitale, ont indiqué vendredi un responsable local et des sources tribales. Et ici aux États-Unis, en Caroline du Sud, le président Obama est actuellement dans l'église où se tiennent les obsèques du pasteur et sénateur de la législature d'État, le pasteur de l'église noire, où 8 autres personnes ont été tuées par un blanc récemment aux États-Unis. Le président Obama est dans cette église pour prononcer l'oraison funèbre pour le pasteur Clemente Pinckney. Il y a plus de 5000 personnes qui participent à ces obsèques, dont Michelle Obama, l'épouse du président, et le vice-président Joe Biden. et la cérémonie se tient à l'université de Charleston, à deux pas de l'église Emmanuel, où, depuis le drame du 17 juin, des inconnus continuent à déposer fleurs, bougies, ballons et drapeaux américains.
Voilà, et toujours aux États-Unis, hein, décision historique aujourd'hui de la Cour suprême sur le mariage homosexuel. Désormais, deux personnes de même sexe ont le droit de se marier partout dans le pays. Jusqu'ici, seuls 36 États et Washington DC reconnaissaient ce droit aux gays. Réagissant à cette décision, le président Barack Obama a écrit sur Twitter que ce jour constitue une étape importante dans notre marche vers l'égalité. Les couples gays et les lesbiennes ont le droit de se marier tout comme les autres, a déclaré bien sûr Obama. Il s'agit là de la plus grande décision sur le mariage aux États-Unis depuis que la Cour suprême a jugé en 1967 inconstitutionnelle l'interdiction en Virginie du mariage interracial.
Le secrétaire d'État John Kerry est parti vendredi pour Vienne, où les négociateurs ont en principe jusqu'au 30 juin pour arriver à un accord définitif sur le nucléaire iranien. Doivent se joindre à lui à partir de demain ses homologues du P5+1 et de l'Iran. Monsieur Kerry est toujours convalescent après s'être fracturé le fémur droit en chutant en vélo fin mai en France. L'objectif est de garantir que le nucléaire iranien est uniquement à des fins Pacifique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco ce soir avec Jacques Aristide.
Le Centre Carter, fondation de l'ancien président américain Jimmy Carter, a appelé aujourd'hui les autorités de Kinshasa à dévoiler les conditions dans lesquelles s'est faite la cession d'un permis minier par la compagnie publique Gécamines à une filiale du groupe suisse Glencore. L'ONG demande au gouvernement congolais de révéler les termes de l'accord par lequel Gécamines a perdu sa participation dans Kawama, concession potentiellement riche en cobalt et en cuivre, rapporte l'AFP. La transaction concerne l'acquisition par Mutanda Mining d'une concession au Katanga. En RDC encore, le président Joseph Kabila a inauguré hier à Kinshasa la nouvelle aérogare et la nouvelle tour de contrôle pour améliorer la sécurité aérienne et l'accueil des passagers à l'aéroport international de Ndjili. D'un coût de 79,5 millions de dollars, l'ouvrage, dont les travaux avaient démarré en 2011, a été financé à 86% par la Banque africaine de développement et à 14% par l'État congolais. Temps maussade pour le tourisme marocain. D'après le baromètre du syndicat des agences de voyage, la destination Maroc a enregistré une baisse de 46% sur janvier-mai par rapport à la même période de 2014. Le tourisme, un des piliers de l'économie du Maroc, connaît en effet une désaffection de son importante clientèle française, même si le gouvernement se veut rassurant en invoquant notamment un engouement sur d'autres marchés européens.
Merci Jacques Aristide pour cette Minute Éco.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Après une longue parenthèse, le foot africain reprend ses droits avec le début de la phase de poule de la Coupe de la Confédération.
Du lourd, du très lourd, jamais la Coupe de la Confédération depuis sa création en 2004 n'avait offert un tel plateau. Les huit clubs ont tous, au moins une fois, inscrit leur nom au palmarès d'une compétition africaine, sans parler évidemment du champion des champions, Ahly, qui défend le titre conquis l'année dernière aux dépens des Ivoiriens du COE Sport San Pedro. Dès ce soir, en Tunisie, l'Étoile du Sahel reçoit le Stade Malien. À Suez, la confrontation Ahly contre l'Espérance de Tunis, qui fut la finale, on s'en souvient, de la Ligue des Champions 2012. Et samedi, dans le groupe A, l'AC Léopards de Lisy contre les Orlando Pirates, le club sud-africain, et le Zamalek au Caire qui reçoit le CS Sfaxien.
Reprise aussi de la Ligue des Champions Afrique.
C'est à El Merreir que reviendra l'honneur d'accueillir à Khartoum la première rencontre en Ligue des Champions avec la réception du MCL Eoulma dans le groupe B. Autre rencontre de ce groupe aux aires de mini-championnat d'Algérie, le choc des poids lourds entre Sétif et l'USM Alger, programmé dimanche soir après la rupture du jeûne entre le tenant du trophée et le plus titré des clubs du pays. Ça sent la poudre. Dans le groupe A, cette première journée offrira dimanche une opposition entre les deux grands favoris de la poule, le tout-puissant Mazembe et El Hilal, sur le terrain des Congolais à Lubumbashi. Et dans la soirée, les Égyptiens de Smouha, novices à ce niveau, recevront les Marocains du Maghreb Tétouan, qui ont récemment vu leur buteur Mohsine Yajour prendre la direction du Qatar.
Coupe du monde féminine de football, les premiers quarts de finale ce vendredi.
Un choc 100% européen entre l'Allemagne et la France. Dans l'autre rencontre de la journée, les Américaines feront face aux Chinoises. Et samedi Morgan, l'Australie contre le Japon et le pays organisateur, le Canada, face à l'Angleterre.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgane Diriac en votre compagnie. Place au dossier du jour et première escale ce soir, le Burundi.
Oui, et nous allons revenir ce soir sur cette intervention musclée de la police hier à Bujumbura au Burundi. Les quelques 500 étudiants qui campaient devant l'ambassade des États-Unis depuis le 15 avril ont été dispersés manu militari. Ils affirment que leurs tentes ont été démantelées et les biens emportés. Bagasikura a recueilli le témoignage d'Ernest Niungeko. Il est le porte-parole de ces étudiants qui vivaient devant l'ambassade américaine.
Pour le moment, je ne sais pas où les étudiants sont parce qu'ils ont été dispersés hier soir. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas encore. Il y a juste une centaine d'étudiants qui étaient passés pour chercher leurs affaires que la police avait emportées. Sinon, je ne peux pas vous dire où se trouvent les étudiants qui étaient devant l'ambassade des États-Unis pour le moment.
Et vous, vous êtes où?
Moi, je suis juste à la paroisse Esprit de Sagesse et j'étais venu pour voir si le curé pouvait nous aider pour retrouver nos affaires. Et il a fait mardi que la police n'a pas amené toutes nos affaires. Il y en a qui ont manqué leurs biens.
Oui. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier exactement?
Hier, vers 13h, la police nous a attaqués à l'endroit où nous étions, donc devant l'ambassade des États-Unis à Bujumbura. Il nous a dispersés et il y avait donc un grand nombre d'étudiants qui ont fouillé. Ils ont été dispersés. Et donc, ils ont fui. Donc, il y a eu au moins 300 étudiants qui ont escaladé le mur de la clôture, qui ont réussi à arriver à l'ambassade. Mais ils ont été repoussés de l'ambassade vers 18h30. Et aussi, 20h, ils étaient restés devant l'ambassade. Mais à 20h, la police est revenue et les a encore dispersés. Elle a tiré donc, des balles en l'air. On s'est encore dispersés. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pu retrouver qu'une centaine d'étudiants seulement. Les autres, je ne sais pas là où ils sont. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des fractures, des poids. Mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu retrouver, c'est une centaine seulement. Et ceux-là aussi, ils n'ont pas où aller. Donc, ils se dispersent partout, je ne sais pas si on va les retrouver encore.
Alors, est-ce qu'il y a eu des arrestations?
On a arrêté des étudiants hier soir, pendant donc, ce temps que la police nous a attaqués. Mais des sources qui m'ont parvenu disent qu'on aurait libéré ces étudiants. Mais je ne les ai pas encore vus et je n'ai pas de nouvelles. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils ont été libérés.
Est-ce que vous savez si vos tentes ont été démontées, détruites?
Tous les biens qu'on avait là, les tentes, les chaussures, les habits, les poids, même les matériels qu'on utilisait pour manger, pour la cuisine, tout ça avait été emporté par la police.
Eh bien, c'était Ernest Niungeko, porte-parole des étudiants qui campaient devant l'ambassade des États-Unis à Bujumbura.
Nous partons maintenant en RDC, poursuite aujourd'hui du procès des activistes pro-démocratie à la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Plusieurs faits sont mis à charge des activistes du mouvement Filimbi, dont deux sont en prison et quatre autres en fuite à l'étranger. La défense a transmis une requête demandant l'annulation de tous les procès-verbaux établis par des officiers de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements. Ces procès-verbaux violent, selon elle, les lois en vigueur en République démocratique du Congo. Reportage de Cyril Milandou de notre radio partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Au cours de l'audience, la défense a dans sa requête demandé au tribunal d'écarter tous les procès-verbaux établis par des OPJ de l'Agence nationale des renseignements. Maître Georges Kapiamban donne les raisons.
Yves et Fred, à travers nous leurs conseils, nous avons introduit une requête demandant formellement au tribunal de pouvoir écarter du dossier judiciaire l'ensemble des procès-verbaux qui ont été établis, soit des procès-verbaux d'audition comme des procès-verbaux de saisie d'objets qui ont été établis lors de leur détention à l'ANR, étant donné que leur établissement n'avait pas respecté les droits de la défense.
Plusieurs infractions sont mises à charge des prévenus. La défense espère-t-elle obtenir la requalification des faits?
Non, à ce stade, nous n'avons pas abordé les questions de fond. Nous, c'est dans un premier temps, c'est d'obtenir l'annulation ou l'écartement du dossier de l'ensemble des procès-verbaux établis lors de leur détention à l'ANR.
Si le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe ne vous satisfaisait pas, qu'est-ce que vous allez faire?
Ah, nous allons exercer toutes les voies de droit, notamment l'appel et les restes.
Selon Maître Georges Kapiamba, le dossier ne contient pas assez d'éléments de culpabilité à l'égard des prévenus.
Nous avons constaté que le dossier lui-même ne contient pas d'éléments de leur culpabilité et que l'ensemble de la procédure qui a commencé à l'ANR est totalement entachée de plusieurs irrégularités. Donc c'est de notre obligation de pouvoir les soutenir éventuellement pour obtenir l'annulation de l'ensemble et aussi leur remise en liberté.
Malgré la fuite des quatre autres prévenus, les deux détenus ont introduit à l'audience du 12 mai dernier une demande de mise en liberté provisoire. Maître Georges Kapiamba a dit qu'ils ont les droits de le faire.
D'abord, la liberté provisoire est un droit. On ne doit pas lier l'octroi d'une liberté provisoire à des événements comme ceux-là. La liberté provisoire de chacun est appréciée par rapport aux éléments individuels. Donc, qu'il y ait eu trois ou quatre qui se seraient organisés pour quitter le pays, pour des raisons qui leur sont diverses, cela ne doit pas nécessairement lier les juges. Donc, mais dans les cas d'espèce, je dois vous avouer que c'est un procès sur lequel pèse énormément de pression politique.
Les prévenus encourent des peines allant de 10 ans à la peine de mort. Kinshasa, Cyril Milando, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, sous les eaux, la capitale économique camerounaise, qui compte plus de 3 millions d'habitants, connaît des inondations catastrophiques depuis le début de la semaine. Celles-ci ont déjà fait 4 morts et plus de 80 000 déplacés. Les autorités régionales et locales ont ordonné l'évacuation des zones affectées, de même que la destruction des constructions anarchiques dans ces secteurs. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Douala Prince Raoul Nasser Kemayou, président de l'Organisation des droits de l'homme et de la protection des citoyens.
Compte tenu de la fragilité d'abord du sol, qui est un sol sismique et qui est proche de l'océan Atlantique, et au niveau de l'Est, auquel la précipitation d'eau, de pluie, a réveillé le lit des rivières et des cours d'eau, et qui a été obstrué effectivement par les activités humaines. Et c'est ça que ce niveau s'est réveillé après 100 ans d'obstruction. Bon, maintenant, même si on fait l'ouverture des graines, il y aura un blocage en aval, dans la mesure où le bourri n'a jamais un plan de dragage, c'est-à-dire que d'épuration.
Quel est le bilan actuel de ces inondations?
Jusqu'à maintenant, on reste au chiffre de 3 morts et on ne peut pas compter les disparus, certes. Mais ce qui nous surprend, c'est que le gouvernement n'a pas mis un plan de sécurisation des zones sinistrées et aussi le plan de gestion après catastrophe. Parce que je crois qu'on a laissé la population pour compte, étant donné qu'on devait interdire l'accès de tous les domiciles submergés à l'accès de population. Donc, on devait avoir un campement de crise auquel on devait gérer quand même ces populations qui sont sinistrées.
Les autorités ont ordonné la destruction des constructions anarchiques dans les zones inondées. Comment les habitants réagissent-ils à cette nouvelle?
Vous savez, le Cameroun, c'est un peuple déjà immobile et passif. Les acteurs des réseaux sociaux ils sont moins impliqués dans ce que le gouvernement fait. Des fois, ils sont inertes. C'est moi, au lendemain de la prestation, qui a réagi. Il faut mettre d'abord la responsabilité directe sur le pouvoir public qui continue à faire la navigation à vue. Ils n'ont aucun plan préventif de risque d'inondation et de catastrophe. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse attacher l'importance dessus. Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a l'afflux de la mer qui arrive et Douala risque d'être submergé. Et de deux, il y aura aussi le phénomène de glissement de terre. Le glissement de terre est réel.
Voilà, c'était Prince Raoul Nasser Kemayo, président de l'Organisation des droits de l'homme et de la protection du citoyen, joint à Douala. Le secteur minier burkinabé est désormais régi par un nouveau code. Contrairement à l'ancien, qui accordait divers avantages fiscaux et douaniers aux sociétés minières, le nouveau s'inscrit beaucoup plus dans la veine du développement social. Le secteur minier burkinabé représente plus de 900 autorisations et titres miniers, 9 mines d'or, une mine de zinc. Mais son impact sur le développement socio-économique n'est pas satisfaisant. C'est en tout cas ce qu'entend corriger le nouveau code de Ouagadougou, le reportage de Zoumana Wanogo.
Le Conseil national de la transition a adopté la loi portant code minier du Burkina Faso.
Mais que contient ce nouveau code minier? Écoutons les explications de Assegna Somda, le président de la commission des députés qui ont travaillé sur le projet de loi.
En quelques points, il s'agit d'abord du fonds minier pour le développement local, qui est de 1% sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices, ce qui est quand même consistant. Et il y a également le fonds minier pour la recherche et la formation. Je pense qu'il faut qu'on forme les jeunes fils et filles du Burkina Faso. Et également, il faut noter aussi l'impôt sur les bénéfices. Dans l'ancien code, l'impôt sur les bénéfices était le taux de droit commun moins 10. Aujourd'hui, c'est le taux de droit commun tout court.
Ce nouveau code minier est l'aboutissement d'une longue lutte menée par une coalition d'ONG sous le slogan « Où est mon or ?». Pierre Dabiré est membre de cette coalition. Il ne boude pas sa joie après l'adoption du nouveau code minier. Suivant.
Mon or là, nous savons où il va partir maintenant. Nous sommes passés d'un code minier qui voulait attirer les investisseurs à un code minier de développement, si on peut ainsi le dire. Et les ressources qui vont augmenter à partir de ce code minier devront servir au développement de notre pays, surtout en direction des populations impactées par l'exploitation minière. Nous avons reçu les 1% que les sociétés minières vont verser à l'État. L'État va contribuer pour 20% sur les redevances et cela doit aller dans le sens du développement des communes et des régions impactées par l'exploitation.
Le gouvernement burkinabé, par la voix du ministre en charge des mines, se réjouit tout aussi de l'adoption du nouveau code. Écoutons l'étude comparative de l'ancien et du nouveau code avec le ministre des Mines. Il s'appelle Boubacar Ba.
Je me réjouis que nous ayons pu voter cette loi qui a été un très long processus. Entamé depuis 2010 et qui aboutit aujourd'hui seulement à un consensus. Et je pense que le gouvernement peut être satisfait. L'ancienne loi comportait des insuffisances, notamment en matière de perception des taxes et certains abus en matière d'exonération douanière. Et avec la nouvelle loi, nous avons essayé de relever certains défis, notamment la protection de l'environnement, le renforcement de la protection de l'environnement et surtout le renforcement de la contribution même du secteur minier au développement local.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Idrissa Sédoudia, pour vous parler de cette cérémonie qui se tient actuellement en Caroline du Sud, le président Obama en train de rendre hommage au pasteur Pinckney, l'une des 9 victimes du massacre du 17 juin dans une église de Charleston en Caroline du Sud. Le président est en train de rendre hommage au pasteur Pinckney. Le président le connaissait, d'ailleurs, quand il a commencé à se lancer dans la course à la présidentielle il y a presque 8 ans. Il se connaissait très bien. Et le pasteur Pinckney est un sénateur de l'État de Caroline du Sud. Donc, le président est là pour prononcer son oraison funèbre en compagnie de son épouse, Michelle, et du vice-président, Joe Biden. Plus de 5 000 personnes participe à cet hommage au pasteur Pinckney. Voilà.
With eight wonderful members of his flock. Each at different stages in life, but bound together by a common commitment to God. Cynthia Hurd, Susie Jackson.
Voilà, c'est tout pour la couverture très brève, malheureusement, de cette cérémonie qui continue donc à l'église de Charleston, en Caroline du Sud. Voilà, Morgan.
Voilà, c'était donc Georges Léonard Sagnot à la production. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.